j'aimerais maintenant commencer à méditer avec vous sur la question du combat spirituel et du discernement. Hein, on l'a vu déjà dans les enseignements qui nous ont été donnés, combien à la fois par la vie de prière, par les appels dans la Bible, mais aussi par toute la dimension de la vie dans l'esprit, comme s'il y a aussi quelque chose qui s'oppose en nous à l'œuvre du Seigneur. Et c'est Saint Paul dans la lettre aux Romains, je vous invite à prendre donc lettre aux Romains chapitre 7, versets 15 à 24. C'est Saint Paul qui lui décrit d'une certaine manière quelque chose que nous expérimentons tous. Nous voulons faire le bien et en fait on fait ce qu'on ne veut pas et on ne fait pas ce qu'on voudrait. Et il dit la manière suivante, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est intéressant de voir au fond, et toute personne qui a un peu travaillé sur elle-même, donc c'est la lettre aux Romains, hein, Romains chapitre 7, 15 à 24. Dès qu'on commence à vivre une vie intérieure, et c'est vrai qu'on le voit dans les personnes qui se convertissent de façon plus manifeste, eh bien, ils disent, avant, quelque part, j'étais plus tranquille. Je ne me posais pas tant de questions. Hein, mais dès que je commence à découvrir l'Évangile, dès que je découvre la présence du Saint-Esprit en moi, je prends conscience d'un certain nombre de réalités spirituelles, eh bien, je découvre aussi en moi qu'il y a des obstacles. Et du coup, il y a un combat intérieur, il y a quelque chose qui nous tiraille, et je pense que c'est bien qu'en fonction de chacun d'entre nous, nous puissions identifier où est notre combat. Et si peut-être nous disons non, moi j'ai pas trop de combat, etc., c'est tout simplement nous avons peut-être pas rentré, nous sommes pas assez rentrés dans la dimension d'une vraie suite du Christ. Hein, parce que la vraie suite du Christ, forcément, à un moment donné ou à un autre, on va découvrir quelque chose qui s'oppose en nous au Seigneur. Et on voit bien que la conversion, c'est le Père. Hubert-Marie nous l'a dit hier, la conversion, c'est une œuvre de tous les jours. C'est tous les jours que l'on doit remettre le travail sur l'ouvrage, tous les jours que l'on doit aussi, d'une certaine manière, demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que, précisément, nous sommes fragiles et nous avons parfois des fragilités plus marquées. Ça, c'est intéressant aussi de découvrir dans une retraite où sont, j'allais dire, nos points faibles, bien souvent dans les confessions. Il vous sera proposé ce soir de recevoir, pour ceux qui le désirent, le sacrement de réconciliation. Et les personnes qui disent, vous savez, mon père, à chaque fois que je me confesse, au fond, je dis la même chose. Alors, ça tombe bien, on vous demande pas de faire dans l'originalité. Ah, j'ai quelque chose là que vous avez pas, j'ai tué père et mère. Ah oui, là oui, c'est vraiment bien là maintenant. C'est vraiment là. Ah, on s'ennuie pas avec vous. Ah ben au moins, c'est du lourd là, ça c'est du bien. Bon, donc on vous demande pas de faire ça. C'est-à-dire, quelque part, on a tous notre combat. C'est-à-dire que ce soit celui qui est colérique, que ce soit celui qui a un regard négatif sur lui-même, qui se décourage, qui se laisse aller vraiment vers un aspect peut-être plus dépressif, celui au contraire qui est dans la vaine gloire et qui sans cesse essaye de vouloir mentir pour embellir la réalité de façon à ce qu'il soit admiré parce qu'il a besoin d'être admiré, en fonction au fond de nos blessures et des blessures de notre psychologie, il y a aussi un combat spirituel qui est mené. Donc c'est intéressant que même si c'est à chaque fois la même chose, le fait de confier au Seigneur votre combat dans dans la confession, ben vous dites au Seigneur, ce combat-là, j'aurai peut-être jusqu'à la fin de mes jours, et c'est fort probable. C'est vrai que même si on peut faire des progrès spirituels, mais des personnes qui sont parfois très colériques ou des personnes qui se laissent aller à un grand découragement, à une grande vision négative d'elles-mêmes, ben c'est quelque chose parfois qui les habite toute leur vie. Hein. Parfois non, il y a des grâces particulières qui sont données, mais qu'est-ce que je fais en venant voir le prêtre et en confiant au Seigneur qui est là présent? Eh bien, ce que dit saint Benoît, je viens fracasser la tentation contre le Christ. C'est-à-dire, je dis au Seigneur, ce combat-là, ce n'est pas simplement mon affaire, c'est aussi ton affaire. Et donc, je viens avec toi confier ce combat-là. Je viens simplement, et peut-être un mois après, parce que c'est vrai que si on vous pouvait vous confesser assez régulièrement, bon, ça dépend où vous habitez, il n'y a pas toujours de possibilité, mais je trouve que c'est un acte d'humilité. Et parce que c'est un acte d'humilité, l'humilité attire la grâce. Et l'humilité aide aussi, c'est comme dire au Seigneur, mais voilà, tu vois ma pauvreté, mais je te demande, agis dans ma vie. De ne pas rester seul avec ses propres blessures, avec ses propres défauts, parce que y a un risque très clair face à nous-mêmes, et peut-être chez certains plus que chez d'autres, un risque de découragement, voire de dégoût de soi-même. Et donc, parce que justement on est seul face à nos psychologies blessées. On a tous des psychologies blessées, parce que le péché originel en nous et les conséquences du péché originel en nous ben font que, de par notre éducation, eh bien, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et on voit bien que le juste milieu, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est spontané. Au contraire. Donc, prenez peut-être pendant cette retraite la mesure de où est votre combat, où est-ce que vous voulez demander au Seigneur sa grâce. Où est-ce que vous voulez demander au Seigneur qu'il vous habite et qu'il vous soutienne dans tel ou tel aspect. Donc ça, c'est une lumière du Saint-Esprit qu'il faut, de demander ça de façon à ne pas se décourager, à ne pas ne pas baisser les bras. Parce qu'on peut parfois, face à nous-mêmes, nous dire, mais vraiment, je suis un bon à rien, je tombe toujours dans les mêmes travers, etc., etc. Donc, voilà, donc c'est la question du combat spirituel. La question de la tentation, maintenant. La question de la tentation, parce que le combat vient à partir de tentation. La tentation, c'est toujours, c'est intéressant comment ça fonctionne la tentation, c'est toujours sous l'aspect du bien qu'on est tenté. Ça veut dire quoi? C'est quelque part, je recherche un bien. Je recherche quelque chose, par exemple, celui qui est tenté par le vol, par exemple, pour en prendre des choses un peu lourdes comme ça, le vol, il voit dans la possession de ce qu'il n'a pas et de ce qu'il voudrait avoir, il voit un bien, sinon il ne volerait pas. Celui qui est tenté par le mensonge, eh bien, tout simplement, il voit dans le mensonge un bien qui lui permet d'échapper parfois à une situation difficile et de passer entre les mailles du filet et d'être bien au regard de tous, parce qu'il vit trop sous le regard des autres. Celui qui enjolive, ce qui est une autre forme de mensonge, mais enjolive la réalité pour se faire mousser, c'est la vaine gloire, c'est vraiment se gonfler d'orgueil, recherche un bien, parce que à partir de ça, il veut exister. Donc c'est toujours intéressant de dire que derrière la tentation, il y a toujours un bien, mais en fait, c'est un faux bien. C'est-à-dire, c'est le chemin qui est choisi pour ça, c'est quelque chose qui nous conduira dans l'impasse et qui laissera un goût amer. Et ça, nous en avons déjà eu l'expérience. Vous êtes à des âges où, vous avez aussi l'expérience de votre vie humaine, de votre vie et d'être allé dans des chemins où vous pensiez trouver le bonheur, et en fait, ça vous a laissé une amertume dans la bouche. Alors, comment ça fonctionne, la tentation? Nous croyons que la tentation, c'est l'œuvre du démon. Alors, j'aimerais dire quelques mots sur le démon, parce que on n'en parle pas assez, et bon, il est tant mieux de parler plus de Dieu que du démon, on est bien d'accord, mais nous croyons, et les Écritures sont là de façon tout à fait claire, nous croyons à la présence du démon et des démons. C'est intéressant de voir, par exemple, dans l'Écriture, quels sont ceux qui professent les premiers la divinité du Christ, ce sont les démons. Les démons, le démon n'a pas de problème de foi, si j'ose dire. Le démon croit en Dieu, je dirais, à la certitude de Dieu, mais lutte contre Dieu. Donc nous croyons non pas, c'est pas simplement, nous pensons pas au côté obscur de la force, ou alors un côté, des ondes négatives, etc. Non, c'est pas ça. Nous pensons que des êtres spirituels, c'est ce qu'on appelle le péché des anges, des êtres spirituels se sont opposés au plan de Dieu et n'ont de cesse de faire échouer le plan de Dieu dans le cœur des hommes. Et comment ils s'y prennent? C'est par l'imagination. Le démon s'adresse, et la tentation, c'est dans l'imagination. C'est-à-dire, j'imagine que quelque chose va me donner le bonheur, comme on a vu tout à l'heure avec les faux bonheurs, j'imagine que quelque chose va me donner le bonheur, mais en fait, c'est trompeur. C'est trompeur parce que, justement, je vois que ce n'est qu'une apparence. Dans le catéchisme comme ça de l'Église catholique au numéro 2847, sur la tentation, il y a tout un passage dans le catéchisme sur la méditation du Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation, il dit, enfin, le discernement démasque le mensonge de la tentation, apparemment son objet bon, séduisant à voir, désirable. Ça fait allusion à Genèse 3:6, alors qu'en réalité, son fruit est la mort. Et pourquoi est-ce qu'il y a une miséricorde pour les hommes et les femmes que nous sommes? Parce que nous sommes tentés, alors qu'il n'y a pas de miséricorde pour les anges. Les anges, comme créatures spirituelles, voient jusqu'à aux dernières conséquences de leurs actes. Et dans un seul acte, l'ange entrevoit, au fond, son agir, et donc, quand il s'est déterminé, l'ange, parce qu'il est créature spirituelle, il n'est pas dans la matière, eh bien, c'est pour toujours. Donc, nous savons qu'il y a les anges qui sont auprès de Dieu, et ça, nous le disons dans la liturgie de la messe, mais nous savons, et en enfer, qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est voir l'amour de Dieu comme une menace, et voir Dieu, au fond, comme un rival, et passer son temps à lutter contre Dieu. Et donc, nous savons qu'en enfer, la seule chose que nous pouvons dire, qu'il y a Satan et ses anges, et les anges, et ceux qui l'ont suivi. Comme personne humaine, nous ne pouvons jamais dire qu'une personne humaine est en enfer. Nous pouvons dire qu'une personne humaine, et c'est la canonisation, la béatification, est auprès de Dieu. Donc, c'est très beau aussi de voir ça, de dire, au fond, l'Église ne va pas reconnaître l'œuvre du démon, elle reconnaît l'œuvre de Dieu en nous. Et elle reconnaît que cette œuvre de Dieu veut avoir le dernier mot. Donc c'est intéressant de voir que la tentation qui vient par l'imagination, ça veut dire aussi que nous-mêmes, où est-ce qu'on en est de notre imagination? Et donc, il y en a qui ont une imagination extrêmement développée, pour leur oraison, leur prière, tout de suite c'est en 3D, avec des couleurs, avec tout un film formidable, etc., dans leur tête, etc. Bon, parce qu'ils partent. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre, entre autres, de domestiquer notre imagination, sinon l'adhésion au réel? L'adhésion au réel va nous permettre de mettre un frein à notre imagination. Non pas que l'imagination soit mauvaise. L'imagination, c'est une faculté intérieure. Elle est ni bonne ni mauvaise. Au contraire, Aristote, par exemple, dira que l'imagination remplace l'expérience. En particulier pour quand on est jeune, on n'a pas l'expérience d'un certain nombre de choses. Il dit quelqu'un qui a une imagination, il entrevoit les effets d'un certain nombre d'actes par son imagination, alors que l'homme expérimenté les entrevoit par l'expérience qu'il a eue lui-même de ses actes. Donc c'est intéressant de voir que l'imaginaire, au fond, il est en nous, il est ni bon ni mauvais. Mais simplement, est-ce que je vois que mon imagination, au fond, vagabonde et quelque part, mais donne aussi prise, parce que ça commence dans l'imagination, c'est j'entrevois que ce portable de dernière catégorie, de dernière génération, voilà, je le vois comme désirable, je l'entrevois comme désirable et je veux m'en saisir. Je veux le saisir pour qu'il soit mien, alors qu'il n'est pas mien. Donc, on voit bien que donc l'adhésion réelle, moi, je crois que c'est intéressant et peut-être certains d'entre vous ont plus de combattre ce côté-là que d'autres. Il y en a qui ont une imagination assez, j'allais dire, domestiquée, assez paisible, et d'autres où c'est vraiment tout à fait fleuri. Et vraiment, voilà, ils sont dans leur monde, quoi. Donc voilà. Ensuite, la tentation vient aussi par, je l'ai dit un peu, par les blessures. Et quand j'entends blessure d'ordre psychologique. Et donc, rentrer dans un combat spirituel, ça veut dire aussi découvrir sa propre psychologie. Hein, connais-toi toi-même. Et ça veut dire aussi avoir une certaine humilité. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout expérimenter, on ne peut pas être dans toutes les situations, mais moi je suis au-dessus de ça, mais non, pas du tout, rien ne m'atteint. Il y a une forme parfois de présomption, particulièrement quand on est jeune, mais pas seulement, une présomption que au fond on peut franchir toutes sortes de situations tout en restant indemne. Ben non, nous avons en nous des fragilités dans nos psychologies, hein, comme je l'ai déjà dit un peu, que ce soit dans le désir d'être au centre, par exemple, dans le découragement, une forme de un côté plus dépressif dans nous-mêmes, ou au contraire, un côté exalté. Il y a des personnes qui sont exaltées, hein, ou des personnes, ce qu'on appelle bipolaires, par exemple, qui à la fois vont dans l'exaltation et à la fois dans le découragement. Hein, ce sont vraiment c'est très difficile. C'est maintenant tout à fait identifié par la psychologie. Donc, c'est intéressant de dire de cette connaissance de soi-même va déboucher des attitudes que je vais prendre pour empêcher justement la tentation de rentrer. C'est-à-dire si je vois que je suis tenté par l'exaltation, par exemple, qui n'est pas la réalité, parce qu'au fond, c'est ça, c'est l'adhésion à la réalité qui va être le grand remède, hein, et à la réalité qu'est Dieu lui-même, eh bien, si je vois que ça, du coup, je ne vais pas me mettre dans des états qui me pousseraient à une exaltation, vous voyez, parce que parfois, on veut parfois rechercher des états, soit par la musique, soit par des... On se met dans des circonstances qui, ensuite, nous mettent en difficulté. Et donc, ça demande aussi d'avoir une garde, c'est-à-dire d'avoir une vigilance. Est-ce que je suis vigilant? Est-ce que je dis, bah tiens, oula, je sais pas, imaginons l'alcoolique, hein, celui qui est alcoolique, celui qui a une dépendance, et puis bon, on va le voir tout à l'heure, toutes les formes d'addiction. Bah, celui qui est alcoolique, eh bien, il se dit, ben là, je sais que si je vais dans cette fête-là, si je me réunis avec ces personnes-là, eh bien, je sais comment ça va terminer. Hein, je sais comment ça va terminer. Hein, de même, on pourrait dire, par exemple, celui qui est tenté beaucoup par la critique, la médisance, si je vais dans ce groupe-là, par exemple au travail, eh bien, finalement, eh bien, on va finir par critiquer son manager. C'est vrai, c'est très agréable. Comme critiquer son supérieur religieux, ça détend. Donc, mais en même temps, ça ne construit pas forcément. Vous voyez, donc, c'est important de se dire, je me mets pas dans tel, je suis vigilant dans le sens où je ne me mets pas dans telle situation qui ensuite entraînerait tels actes. Et c'est là parfois où il y a en nous une duplicité, quelque chose qui est pas clair. Parce qu'au fond, on recherche parfois ce côté, je dirais, entre guillemets, malsain, ce côté, je sais qu'avec ma petite amie, j'ai du mal à vivre la chasteté, eh bien, je vais pas, attendre trop tard dans la soirée, parce qu'ensuite c'est le dernier métro, puis on habite, je sais pas quoi, très loin, voilà, et puis bon, dernier métro, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, bon, et on sait bien comment ça se termine, par un rosaire. Donc, pourquoi? Alors, parfois, attention, on arrive parfois avec cette intention-là. Et c'est là la duplicité humaine. C'est-à-dire que, c'est intéressant de ce que Aristote il dit, ce qui est premier dans l'intention est dernier dans l'exécution. C'est-à-dire que ce qui est premier dans l'intention, au fond, se voit dans la dernière, et ça c'est vrai pour Dieu aussi, hein, dans les derniers actes qu'on pose, qui au fond étaient premiers dans l'intention que l'on posait. Et donc, c'est intéressant pour nous que nous puissions découvrir dans les actes, est-ce qu'au fond il n'y avait pas déjà une intention préalable qui était une intention double. Il y avait une connivence, une sorte de complicité aussi avec le mal, quelque chose qui est pas clair en nous, et c'est ça qu'on veut dénoncer. Et c'est ça qu'on veut présenter au Seigneur dans la confession. Parce qu'on dit, voilà, je sens que je suis pas clair avec ça. Je suis pas clair, par exemple, avec l'honnêteté. Hein, je me souviens comme ça d'un père de famille qui, bon, dans son travail, devait manier pas mal d'argent liquide. Et il me dit, ben voilà, ça fait plusieurs fois que je prends dans la caisse, quoi, clairement. Je prends dans la caisse parce qu'il me disait, j'estime que je suis pas assez payé. Oui, là, c'est pas une manière de faire. Oui, ce qu'on appelle la rationalisation. Hein. Rationaliser, ça veut dire se donner des raisons pour agir comme on agit. Hein. Je ne mets pas tout sur ma feuille d'impôt parce qu'au fond... Mais non, c'est pas du vol, de toute façon, le plus grand voleur, c'est l'État. Donc, voler un voleur, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'on appelle rationaliser. C'est-à-dire, je donne des raisons pour agir, pour quelque part que ma conscience, progressivement, s'incline pour justifier mes actes. Et c'est là où on voit, et pour faire diminuer la tension, au fond, en nous. Eh bien, et ça ne nous construit pas. Parce qu'à finir, on finit par penser comme on agit, à défaut d'agir comme on pense. C'est-à-dire qu'on finit par soi-même adopter une posture intellectuelle qui viendra en justification de quelque chose qui est injustifiable, comme par exemple la malhonnêteté. Et qui objectivement est injustifiable. Ça veut dire qu'il y a en nous à faire une opération vérité pour de dire voilà qu'est-ce qui et être au clair avec nous-mêmes et avec notre conscience. D'où l'importance d'éclairer sa conscience, l'importance d'éclairer sa conscience et de se former. Qu'est-ce qui est en conscience juste ou injuste ? Hein, si la justice c'est une vertu cardinale qui permet de rendre à chacun ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui, en justice, est dû à l'autre ? Prenons un exemple. Je peux tout à fait être injuste par le fait de ne pas consacrer assez de temps à mes parents, pas consacrer assez de temps à mes amis. Et donc, là, il peut y avoir une forme d'injustice qui est en moi. Et alors, si je me dis, mais voilà, il y a quelque chose d'objectif là, parce que à mes parents, à mes amis, est dû à un temps donné, eh bien, si je, au fond, j'incline, il y a une abdication progressive de ma conscience qui fait que, ben non, en fait, bon, ils sont rasoirs, ce sont, ils peuvent très bien se passer de moi, etc. Je justifie ma manière d'agir, et du coup, voilà, je suis plus dans le combat spirituel. Je suis plus dans la dimension de lutte aussi, de vigilance et d'être attentif. Donc, je crois que c'est important de le découvrir. Dans la confession, autre point justement pour un peu parler de la démarche qui vous sera proposée ce soir. Dans la confession, on confesse des actes libres. C'est des actes où notre liberté était vraiment engagée. Nous avions le choix. Je prends un exemple. Revenons à notre alcoolique. En sortant de son domicile pour aller à son travail, il a deux chemins. Il a un chemin qui passe par le bistrot, et il a un chemin qui ne passe pas devant un bistrot. Donc il a deux chemins. Et donc ces deux chemins, quand il sort de son domicile, il le sait. S'il prend ce chemin-là, qui passe devant le bistrot, il va rentrer dans le bistrot, il va commander un petit blanc à 7h30 du matin, et puis peut-être un deuxième, un troisième, et puis peut-être il prendra la voiture, etc. Il sait ce qui va se passer. Il le sait. Nous savons, on est des grands garçons, des grandes filles, on sait très bien que si on va dans telle situation, il y aura tel acte à la fin et telle conséquence. Donc quand il sort de son domicile, il y a un acte libre qu'il pose. Et donc, il a un vrai choix. Et c'est là où notre liberté, c'est-à-dire notre volonté, hein, parce que la liberté aussi est dans la volonté, dans cette capacité de choix, eh bien, c'est là où il y a un combat intérieur. Est-ce que je vais choisir le chemin qui passe devant le bistrot ou est-ce que je vais choisir celui où il n'y a pas de tentation, hein? Et donc confesser des actes libres. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, comme prêtre, on voit que les personnes ne prennent pas conscience de ça. Confesse plutôt de l'ordre de l'émotion. C'est-à-dire que, prenons un autre exemple, la colère. Je me suis mis en colère. Oui, mais est-ce que c'est volontairement? Est-ce que c'est volontairement que vous vous êtes mis en colère? Ah ben non, tout d'un coup, la moutarde m'est montée au nez, j'en ai eu ras-le-bol, et puis je lui ai dit ces quatre vérités. Pour moi, ce n'est pas de l'ordre de l'acte libre. Pourquoi ce n'est pas de l'ordre de l'acte libre? Parce qu'il n'y a pas eu une décision. Là où il y a une décision, c'est après, si le premier mouvement t'échappe, que le deuxième mouvement, lui, ne t'échappe pas, c'est-à-dire d'aller demander pardon, là tu as prise. Tu n'avais pas prise sur ta colère. Quelque part, la vague de la colère, la vague de tes émotions t'a complètement submergé et tu étais, comme on dit, hors de soi. Mais là, il n'y a pas eu vous voyez, c'est de même que l'alcoolique devant la bouteille n'est pas libre. Donc, ce dont il doit s'accuser, ce n'est pas simplement d'avoir été sous. C'est quelque part, là, il n'y a pas eu une liberté. C'est de dire, quand je suis sorti de mon domicile, je savais exactement ce qui allait se passer, et là, j'ai choisi le mauvais chemin. Donc, c'est intéressant de voir dans nos vies où est-ce qu'il y a une liberté qui s'est engagée dans une impasse. Et nous le savions. Nous le savions. Nous le savions jusqu'à un certain point. Parce que nous ne sommes pas de nature angélique. C'est-à-dire que nous n'avons pas la connaissance jusqu'aux dernières conséquences de nos actes. Et c'est pour ça que Jésus dira, pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que précisément, parce qu'on est tenté. Et donc, on connaît quelque chose, mais on n'a pas, et puis comme on est ancré dans la matière, c'est ce que dit Saint Paul, cette loi, je découvre dans mes membres, c'est-à-dire dans ma chair, quand il dit ma chair, c'est de façon très, c'est pas seulement le corps avec des pieds et des jambes, etc. Quand il dit dans ma chair, je découvre aussi dans l'esprit du monde, une loi qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Et donc, c'est intéressant de prendre conscience justement de ce combat par rapport à quelque chose qui, au fond, qui va nous rendre plus libres. Le combat spirituel, c'est dénoncer nos manques de liberté, nos libertés qui sont allées dans l'impasse. Ça veut dire aussi repérer les nœuds dans nos vies. Et ça, je pense, c'est un autre aspect. Les nœuds dans nos vies qui parasitent le discernement. Parce que tout ça, ça parasite le discernement, forcément. L'alcoolique qui sort de son domicile, à force d'aller dans le même chemin qui passe devant le bistrot, ben, son progressivement, sa conscience abdique, et puis son discernement aussi est obscurci. Donc là, on est tout à fait dans notre thème du discernement, hein, la lutte contre, au fond, l'esprit malin, et fait partie du discernement, hein, précisément. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est un acte, c'est un combat pour la liberté. Et là, je pense à plusieurs choses. C'est tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'emprise. Des personnes, comme on dit, être sous emprise. Sous emprise à plusieurs niveaux. Je me souviens comme ça d'une femme qui me disait « De toute façon, ma mère, toute ma vie, m'a dit que j'étais nulle. » Pour moi, le fait d'être nul, ça c'est une parole sûre. Et donc, elle avait mis à la place de la parole de Dieu, je t'ai gravé dans la paume de mes mains et tu as du prix à mes yeux, elle avait mis une parole humaine, la parole de sa mère qui lui avait dit qu'elle était nulle. Et donc, vous voyez ces formes d'emprise où des jugements de personnes extérieures viennent dicter votre conduite et viennent vous engager dans un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime, hein, dans Isaïe. Donc et là, non, celui, il me dit, t'es nul. T'es nul, et puis je l'ai entendu tellement de fois que, oui, ça doit être vrai. Eh bien, ça, c'est pas vrai. Et donc, sortir de l'emprise de cette parole qui a été prononcée par moi, pas sur moi, par d'autres, ou alors aussi de sortir d'une forme d'emprise affective. Je pense à toute la question de la manipulation. La manipulation affective, même dans le milieu du travail, allez, sois gentil, dis oui, et comme vous êtes plutôt gentil, vous êtes catho, vous êtes gentil, vous êtes bon, etc. Ben oui, je vais peut-être. Et puis on n'ose pas trop dire non parce qu'on nous a dit la Vierge Marie, elle a dit oui, donc du coup, voilà. Donc on se fait des nœuds à la tête, on se dit mais si on dit non, mais c'est que je suis pas une bonne fille, au fond, voilà. Les manipulateurs repèrent ce genre d'attitude et du coup ils quelque part à travers ça au plan affectif bien souvent ils amènent la personne là au fond là où elle ne veut pas aller. Et donc le combat spirituel ce sera de sortir de l'emprise du manipulateur. Et quand cette manipulation en plus se double de vie spirituelle ou sous couvert de vie spirituelle, alors là, ça, c'est pratiquement démoniaque. C'est-à-dire que on se sert de la spiritualité pour quelque part emmener l'autre, faire que l'autre soit mon image et ressemblance, et de l'emmener là au fond où je veux, qu'il soit un peu, alors on ne se dit pas comme ça, mais un peu ma chose. C'est-à-dire que voilà, c'est on veut avoir et tout ça sous couvert d'obéissance à Jésus qui s'est humilié jusqu'à la mort. Donc attention à ça. Je dis ça aussi par rapport à l'accompagnement spirituel et par rapport de façon en général à la vie spirituelle. Une vie spirituelle et un accompagnement spirituel ne peut pas mettre entre parenthèses votre capacité de décision et votre capacité de liberté. Et quand vous sentez que dans un accompagnement spirituel, on commence à toucher la fibre de la culpabilisation, parce que ça passe beaucoup par ça, on culpabilise l'autre, de même dans la vie professionnelle, on le rend coupable pour qu'il puisse agir comme là nous, comme nous-mêmes nous voulons qu'il agisse, eh bien quand vous sentez ça, eh bien là, dites non, parce que ça, c'est pas de Dieu. C'est tout simplement pas de Dieu. C'est toutes les formes d'emprise et de manipulation dont il faut absolument sortir. Peut-être vous avez suivi des actualités intéressantes, mais c'est vrai qu'on voit, surtout par exemple dans des jeunes communautés, eh bien, toutes sont passées par cette dimension de soit par le supérieur, soit par le fondateur, qui avait trop d'emprise sur les personnes et qui, au fond, ne laissait pas une vraie liberté, un vrai discernement s'établir et l'œuvre de Dieu s'établir. Et c'est pas pour rien que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle une règle de vie, je pense par exemple à la vie religieuse, parce que la règle de vie, au fond, est intéressante parce que elle donne un cadre pour le supérieur de façon à agir, c'est ce qu'on appelle au fort externe, c'est-à-dire à ce qui est visible. Et on demande, en tout cas, et l'Église en a fait l'expérience de par les siècles, qu'il y ait une séparation assez nette entre le fort externe, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg, ce que l'on peut voir, et le fort interne qui est de l'ordre de la décision et de l'ordre des intentions et de l'ordre au fond de la vie spirituelle, pour éviter toutes les formes de manipulation, et pour laisser à l'autre une liberté. En particulier dans la vie contemplative, on voit bien des ordres qui ont une tradition séculaire, eh bien mettre en place des tas de choses pour laisser aux religieux ou aux religieuses une liberté suffisante, que ce soit par des intervenants extérieurs, par des confesseurs extraordinaires, ordinaires, voilà, qui fait, par des visites qu'on appelle régulières dans la vie monastique, des pères abbés, par exemple, ou mères abbesses, d'autres abbayes du même ordre viendront visiter pour s'assurer que, justement, la liberté des religieux et religieuses est respectée. Surtout dans une dimension contemplative monastique. Parce que là, justement, il y a un côté clos qui peut parfois favoriser cette emprise et ce manque de liberté. Donc, voilà, c'est l'emprise aussi qui vient de pratiques occultes. Alors, ça, l'emprise qui vient de pratiques occultes, je pense, par exemple, au spiritisme. Spiritisme, faire tourner les tables, faire avec un verre, comment on appelle ça, l'alphabet, le verre bouge, etc., et indique un nom, cartomancie, se faire tirer les cartes, astrologie, magie, nécromancie, faire parler les morts, voyance, je voyais en préparant l'enseignement, il y a 15 millions de consultations de voyants en France par an, pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Mais le manque de Dieu dans la vie de nos chers concitoyens fait que, parce que, ben voilà, dans la voyance, pourquoi ça s'oppose à Dieu? Parce que ça s'oppose à la confiance. Parce que c'est un désir de d'une manière ou d'une autre, d'avoir de maîtriser tout. Alors je sais mon avenir, je sais comment ça se passe, etc. Et dans la Bible, c'est très clair, hein, comme dit le psaume, je n'aurai pas un regard pour les pratiques démoniaques. Tout ça, ce sont des pratiques démoniaques. Je veux dire, c'est clairement, même s'il n'y a pas d'esprit de Satan, etc. invoqué, mais sans voir le démon partout, mais je pense de façon tout à fait objective que dans cette dimension-là, en tout cas, s'oppose à l'œuvre de Dieu en nous. Donc si on sent que on s'est laissé aller, la liste encore en longue, tout ce qui est porte-bonheur, par exemple, superstition, hein, horoscope, et puis a fortiori magie, satanisme, hein, donc culte rendu à Satan. Bon, si on a dans notre existence, de près ou de loin, fricoté avec ces réalités obscures et occultes, ne croyons pas que nous en sortirons indemnes. Et c'est bien aussi de confier ces pratiques que l'on a pu avoir dans un moment d'errance ou d'égarement ou parce qu'on ne savait pas, hein, et de les confier aussi dans la confession parce que parfois il peut y avoir des liens qui sont faits, hein, où on se sent prisonnier quelque part, on sent que, voilà, on est intérieurement, c'est aussi des cas d'addiction, que ce soit par l'alcool, la drogue, la pornographie, etc., toutes les formes d'addiction possibles, on sent qu'on n'est plus libre, on n'est pas libre. Et je crois que le combat spirituel, c'est permettre à l'Esprit Saint d'agir en nous, c'est un combat pour une plus grande liberté. Une plus grande liberté de choix, c'est-à-dire une plus grande capacité d'aimer. Hein. Ça, c'est une chose. Un deuxième point par rapport à la tentation, nous devons discerner c'est le catéchisme de l'Église catholique qui parle au numéro 2847, discerner entre être tenté et consentir à la tentation. C'est pas pareil. Être tenté, c'est-à-dire j'entrevois comme un bien quelque chose, voilà, qui c'est désirable, c'est etc., etc. Mais si je suis assez fort intérieurement, eh bien, parfois, le fait d'être courageux, c'est de fuir la situation dans laquelle je suis tenté. Et donc, le courage, ce sera de fuir cette circonstance particulière qui fera que, voilà, je sais très bien que ça aboutit dans l'impasse. Hein. Et il y a, j'allais dire, trois formes de tentation. Il y en a pas 40, il y en a trois. Et ça, je vous renvoie à Luc 4, 1 à 13. Le père Hubert-Marie nous l'a dit très bien hier, le péché est toujours ancien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, avec Internet, avec les mobiles, les portables, mais c'est les mêmes ressorts que le démon touche au fond dans le cœur de l'homme, qui sont aussi des fragilités dans notre humanité. Eh bien, en Luc 4, 1 à 13, eh bien, on voit au fond les tentations du Christ. Le Christ qui lutte contre toutes les formes de tentation. Jésus, donc Luc 4, 1 à 13. Et consentir, tu vois, ça c'est... Une chose, c'est sentir, autre chose, c'est consentir. Je peux être tenté par la critique, autre chose, c'est d'ouvrir la bouche et de critiquer objectivement. Je peux être tenté par la malhonnêteté, par le vol, et planquer dans mon caddie au supermarché des trucs comme ça, voilà. Et autre chose, je veux dire, ben non, que j'arrive devant la caissière, et puis que là, que je sors tout sur le tapis roulant, là. Donc, bon. Alors, vous y êtes, Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. 40 jours, quand vous voyez 40 dans la Bible, c'est pas simplement 20 plus 20. 40 dans la Bible, ça fait allusion aux 40 semaines d'aménorrhée pour la femme enceinte qui ensuite va donner naissance à l'enfant. C'est-à-dire que 40, c'est pour l'homme ou la femme de la Bible, ça veut dire une nouvelle naissance. 40 ans dans le désert, etc., etc. Il y a une nouvelle naissance. Donc ça, juste pour un peu décrypter. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Bon, ça on le suppose. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » Il eut faim. Alors, c'est intéressant, c'est pas seulement parce que voilà, il a jeûné 40 jours et il a faim. C'est-à-dire que le démon nous tente dans nos faims, c'est-à-dire dans nos désirs, dans notre appétit au fond de plénitude. Il nous tente là. Hein, et donc, il eut faim. Et donc, la première des tentations, c'est ce qu'on appelle l'orgueil de la chair. L'orgueil de la chair, c'est tout ce qui est lié au plaisir, de façon générale. Hein, donc, tout ce qui nous apporte une satisfaction immédiate. Il y en a qui sont plus fragiles de ce côté-là, il y en a qui sont moins fragiles. Là aussi, en fonction de nos psychologies. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il dit, Jésus, eh bien, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Au fond, il répond à la tentation de Satan, il répond par la parole de Dieu. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu, c'est une citation. Donc c'est intéressant, dans le combat spirituel, nous avons des armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles, hier Père Hubert-Marie nous l'a dit, il y a les sacrements, il y a la prière, l'accompagnement et la parole de Dieu. Et parfois, si je sens que je suis tenté par tel ou tel aspect, que j'ai une parole de Dieu que je porte et qui, parce que cette parole de Dieu, elle accomplit ce qu'elle dit. Hein, c'est ce qu'on appelle une parole performative. Hein, contrairement à nous, quand on dit quelque chose, je sais pas quoi, ranger ceci, ranger cela, etc. C'est pas pour ça que ça se fait dans l'instant. Bon, loin de là. En revanche, la parole de Dieu, elle accomplit. C'est-à-dire que et Dieu dit et cela est. Donc, ça veut dire que cette parole de Dieu, elle accomplit en moi ce qu'elle elle produit en moi ce qu'elle dit. Donc, c'est intéressant. Donc, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Donc, première tentation. L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Dans la tentation, il y a toujours un mensonge. De toute façon, dans la tentation, il y a toujours un mensonge. La tentation, c'est un mensonge. Ce n'est que mensonge. C'est une promesse de bonheur qui nous laisse vide. Et là, le mensonge, c'est de dire, voilà, la gloire des royaumes m'appartient. Non. Le monde appartient à Dieu, le monde n'appartient pas à Satan. Donc, il y a un premier mensonge qui est là. Et je le donne à qui je veux. Donc, de même, vous vous rappelez dans Genèse, dans la tentation, le récit. Et Dieu vous a dit de ne manger aucun arbre, aucun fruit des arbres du jardin. Hein, donc, il faut comprendre aussi dans un style biblique ce qui nous est dit. Hein, et le démon dit ça. Et Adam répond non, il ne nous a pas été dit ça. Il dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres, sauf d'un seul. Oui, c'est vraiment le menteur dès l'origine. C'est le mensonge. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Donc là, il y a un mensonge. Et tu te prosterneras, c'est-à-dire tu te adoreras, c'est le geste d'adoration. Et puis Jésus répond aussi avec la parole de Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Donc le fait de se... de la gloire, tout ce qui est l'orgueil, ce qu'on appelle, si la première tentation c'est l'orgueil de la chair, les autres, l'orgueil des richesses, l'orgueil lié à la gloire, lié au, au pouvoir et au pouvoir que donne l'argent. C'est vouloir être Dieu par son pouvoir et faire ressentir aux autres son propre pouvoir. Et puis, troisième tentation, puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Là, vous voyez, ça c'est vraiment démoniaque. On utilise la parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise des choses spirituelles pour éloigner de Dieu. Ça, c'est proprement démoniaque. Parce que là, il fait, au fond, il tente le Christ par la parole de Dieu elle-même. Et c'est pour ça qu'il faut un discernement, parce que c'est pas toujours clair, surtout en matière spirituelle. C'est pour ça que c'est bien de prendre des... Il y a des chemins qui sont balisés dans l'Église, qui permettent justement de ne pas se fourvoyer. Parce que les sectes aussi partent de questions spirituelles. Et comme le spirituel, par définition, ça ne se voit pas, on peut aller tout à fait dans le décor, tout en ayant une très bonne volonté et une très grande sincérité. Donc si soi-même on n'est pas au plan du discernement assez mûr, assez formé, etc., eh bien il y a des chemins balisés qui sont sûrs, qui nous permettent dans la vie de foi de dire, voilà, je ne vais pas aller dans le décor sous prétexte de dimension spirituelle. Donc là on voit bien que le démon connaît très bien sa Bible. Le démon n'a pas du tout de problème avec la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu sur le bout des doigts, j'allais dire. Et il connaît Dieu aussi sur le bout des doigts. Il lutte contre, mais il le connaît. Et là, alors c'est aussi intéressant, il est placé en esprit à Jérusalem. Jérusalem, évidemment, c'est pas rien comme ville. C'est dans le temple où il y avait l'arche d'alliance, c'est-à-dire là où le lieu de l'alliance, le lieu de la présence de Dieu, au pinacle du temple, c'est-à-dire au sommet du temple, c'est-à-dire je me mets au-dessus de Dieu. Je me mets quelque part dans une attitude, voilà, mon Dieu est là, mais moi je ne vais pas me laisser avoir. Je me mets dans une attitude de supériorité, oui, c'est ça, voilà, je suis quelque part au-dessus de ces choses-là. Moi, on ne m'aura pas. C'est l'orgueil de l'esprit. Et cet orgueil de l'esprit, au fond, alors nous on dit pas comme ça, mais quand vous regardez la première dans la tentation d'Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Au fond, en nous, il y a quelque chose de divin. Mais ce quelque chose de divin, il doit être reçu. Il y a quelque chose d'infini. Il y a quelque chose d'éternel en nous. Mais cet infini, cet éternel, ce divin, c'est par participation, c'est pas nous prendre nous-mêmes comme notre propre origine. Parce que si on prend cet éternel, ce divin et cet infini, mais quelque part en se recroquevillant sur soi-même, en prenant ça comme la source de nos actes et n'en admettant pas d'autres lumières que notre propre lumière et la lumière de notre intelligence et de ce qui est infini et divin en nous, eh bien là, ça c'est l'orgueil de l'esprit. Là, c'est démoniaque. Très clairement. Alors que cet éternel, ce divin et cet infini, eh bien, nous y avons accès par la béatitude des pauvres. La béatitude des pauvres, précisément, qui est la béatitude qui se conjugue au présent, et qui permet, le royaume des cieux est à eux, j'ai accès à ça, mais dans une confiance filiale envers le Seigneur, non pas en me prenant, en m'auto-célébrant quelque part, en me gonflant d'orgueil, en me prenant comme centre, et en prenant mon intelligence comme la seule lumière pour mes actes, en n'acceptant pas d'autres lumières. Et donc, c'est intéressant de voir que ça, c'est la tentation la plus subtile. Et quelque part, d'une certaine manière, se mettre au niveau au-dessus de Dieu, on le fait pas comme ça, on dit pas oui je suis Dieu, etc., parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les asiles psychiatriques qui le disent, mais nous-mêmes nous le faisons de façon beaucoup plus subtile et bien élevée. Le fait de ne pas prier, au fond c'est dire je n'ai d'autre lumière que moi-même, et je n'ai ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Je n'accepte aucune autre lumière parce que je ne me mets pas dans une autre référence qui est la parole de Dieu, qui est la parole de la communauté chrétienne, qui est les sacrements, etc. Je ne veux pas dépendre. Non serviam, c'est ça le démon. Je ne servirai pas. Je ne veux pas dépendre. Je vois Dieu comme une menace et un compétiteur. C'est ça, ça c'est la pointe de la tentation et du combat spirituel. Je vois Dieu comme un compétiteur. Et c'est en nous. Ne disons pas que c'est pas en nous. Et c'est en nous aussi comme consacrés, comme prêtres, comme, je veux dire, il y a un acte d'humilité sans cesse. Je veux dire, plus on a contact avec les choses de Dieu, d'une certaine manière, plus on est tenté à ce niveau-là. Parce que plus on a accès à quelque chose d'immense et de grand que sont les choses divines. Et donc plus aussi il faut être dans l'humilité et dans la dépendance amoureuse et dans la confiance et dans l'abandon. Parce que sinon on va dans le mur. Et donc le Seigneur répond, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tac, allez hop, candidat suivant, fini. 15-0, allez, balle au centre. Il répond avec la parole de Dieu, je te vois bien, toi, tu utilises la parole de Dieu pour me confondre, et moi je te réponds avec la parole de Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est la fin qui n'est que dans Saint-Luc. Ayant épuisé toute tentation, c'est-à-dire que toute tentation, d'une manière ou d'une autre, se rapporte à l'orgueil de la chair, à l'orgueil des richesses et à l'orgueil de l'esprit. Toute tentation. Et quand vous voyez des grands scandales, par exemple, qu'on voit, c'est soit des abus de pouvoir, soit des malversations, des questions sexuelles de personnes qui ont abusé de leur situation pour demander toutes les formes de harcèlement sexuel, etc. Vous voyez, c'est quelque chose, quelque part, il n'y a rien de nouveau, le péché est toujours ancien. Mais c'est toujours les mêmes failles en nous, on voit bien, et dans l'humanité. Donc, ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Et ce moment favorable, ce sera l'agonie. L'agonie, en grec agonie, agonia, qui veut dire combat. Le dernier combat, le combat du Christ, c'est non seulement au début de sa vie apostolique, mais au moment de la passion, le grand combat, ce sera accueillir dans sa chair, dans son humanité, parce que le combat, Christ combat dans son humanité, il ne combat pas dans sa divinité, ça ne voudrait rien dire. Donc il combat dans son humanité, et donc dans son humanité qui est tentée jusque par le démon de dire, et ça c'est dans le film de La Passion de Mel Gibson, je trouve ça très beau, c'est très bien rendu, hein, où on voit nous dit l'écriture, transpirer du sang. Je veux dire, il y a un tel combat pour accomplir la volonté de Dieu et que le Christ livre. Et une fois que ce combat est livré et qu'il a accueilli cette volonté du Père, et on le voit très fort dans Saint Jean, ça c'est très très fort, en fond, il arrive, et il arrive comme comme celui qui a pouvoir sur tout parce qu'il a accompli l'œuvre du Père en lui. Les soldats tombent en arrière. Il arrive comme quelque part en pleine possession de ses moyens. Il s'approche volontairement de sa passion, mais avec une capacité d'amour et une décision qui font que rien en face ne lui résiste parce qu'il a accueilli la volonté du Père en lui. Et donc on voit bien que au Sanhédrin, par exemple, il faut reprendre ça, mais au Sanhédrin, par exemple, le grand conseil, il y avait des témoignages contre lui, et du coup les témoignages eux-mêmes se contredisent, Pilate ne sait que faire, etc. Il avance comme roi face à sa passion, parce qu'une fois qu'il a livré ce combat de l'agonie, eh bien il est une puissance d'amour à laquelle rien ne peut résister. Et donc nous-mêmes, nous nous appuyons sur cette puissance d'amour du Christ à laquelle nous avons accès, par les sacrements en particulier. Nous avons accès par les sacrements. Dieu ne se limite pas à sept sacrements, mais nous savons que dans les sacrements, il est présent. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Dieu, nul ne l'a jamais vu, et quelqu'un de non-chrétien, de, etc., peut être touché par le Saint-Esprit, et de non-croyant, bon, d'une manière ou d'une autre. Mais nous qui sommes dans la foi chrétienne, eh bien, nous savons que nous avons accès à cette force d'amour invincible du Christ, lors de sa passion, nous y avons accès dans les sacrements. Et chaque fois que nous communions à la force d'amour du Christ, qui a vaincu la mort au moment de son agonie et au moment de sa résurrection. Donc je crois que demandons au Seigneur dans ce combat spirituel de nous appuyer sur lui, non pas sur nos propres forces et notre propre sagesse, dont on sait très bien, on ne sait que trop où elle mène, et dans une grande fragilité. Et demandons aussi dans ce combat intérieur de l'assistance des anges gardiens. S'il y a le démon est un ange, les anges gardiens, eh bien, sont là aussi pour nous soutenir. C'est intéressant, il y a la présence de l'ange. Il y a la présence de l'ange à la tentation au désert, et les anges le servir, etc. Bon, mais il y a la présence de l'ange aussi à l'agonie. Et pourquoi la présence de l'ange ? Pour nous soutenir notre intelligence dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ça le rôle de l'ange. De l'ange, c'est de soutenir notre intelligence. Ça sert pas simplement à trouver une place de parking, hein, quand on est voilà, on a fait 15 tours et on demande à l'ange gardien, etc. Il y en a qui sont très pieux, alors l'ange gardien, très bien, mais l'ange gardien, il sert pas pour le parking. Donc l'ange gardien sert dans notre combat spirituel pour accomplir la volonté de Dieu et nous donner des raisons d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça. Il nous donne des raisons d'accomplir. Et donc, même le Christ, quelque part, dans son humanité, a été soutenu par les anges. Et donc, à nous aussi de nous tourner vers eux pour invoquer leur soutien et demander leur aide. Amen.